Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. À Paris, la première ministre a officiellement lancé la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Lors de cette cérémonie, Judith Souminois a présenté cette candidature comme celle d'une francophonie moderne et résolument tournée vers l'avenir. Ebola, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une situation jugée extrêmement préoccupante en RDC. Dans une publication datée du 22 mai, son directeur général fait état d'une hausse des cas et une riposte compliquée par l'insécurité dans certaines zones du pays. Face aux inondations fluviales récurrentes dans la ville de Kindu, l'Union pour la promotion et la défense des droits humains et de l'environnement a organisé une rencontre avec différentes parties prenantes. Objectif, analyser ce problème et élaborer une note de plaidoyer sur les inondations fluviales à Kindu. Pour en parler, nous recevons Bilembo Malonga Blaise, chargé des réductions des risques de catastrophes. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal du week-end sur la radio de la pays. La première ministre Judith Souminois Touluka a officiellement lancé à Paris la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, une candidature portée par la chef du gouvernement qui défend une francophonie plus proche des peuples, davantage tournée vers la jeunesse, le sud global et les grands défis contemporains. À travers cette initiative, la RDC entend renforcer sa voix au sein de l'espace francophone et promouvoir une nouvelle vision du leadership africain sur la scène internationale. Le point avec Christian Makasinga.
Lors de cette cérémonie, la première ministre Judith Souminois Touluka a présenté cette candidature comme celle d'une francophonie moderne et tournée vers l'avenir. Je cite, une francophonie qui avance, une francophonie qui ose, une francophonie qui se renouvelle sans renier ses valeurs. Fin des citations. Pour la chef de gouvernement, cette candidature représente également un signal fort pour la place des femmes africaines dans les espaces de gouvernance internationale. De son côté, Juliana Lumumba inscrit sa démarche dans la continuité de combat historique de peuple sud global pour la dignité, la souveraineté, une coopération plus équilibrée. La fille de Patrice Emery Lumumba défend une francophonie qu'elle qualifie de civilisationnelle, capable, selon elle, de dépasser les simples cadres diplomatiques ou économiques. Même vision du côté de l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kassongo, qui estime que cette candidature porte l'ambition d'une francophonie plus proche du peuple, attentive aux aspirations de la jeunesse et engagée face aux défis actuels. À travers cette offensive diplomatique, Kinshasa attend renforcer son influence au sein de l'espace francophone mondial. La RDC veut désormais faire entendre une voix africaine plus forte au sein de l'OIF.
En RDC, avoir de l'électricité reste encore un privilège pour une grande partie de la population. Entre coupures répétées, manque d'infrastructures et quartiers plongés dans le noir, l'accès au courant continue de compliquer le quotidien des millions de Congolais. Face à cette crise énergétique, les députés nationaux ont auditionné jeudi le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, dans le cadre d'une question orale avec débat, initiée par la députée Adèle Bazizane Maéché, élue de Nirangongo au Nord Kivu. Revenue devant la présentation nationale après le délai de 48 heures qui lui avait été accordé, le ministre a reconnu plusieurs difficultés techniques, financières et logistiques freinant l'amélioration de la desserte électrique. Il a également présenté les stratégies du gouvernement pour accroître l'offre énergétique et élargir l'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Plus d'explications avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Parmi les recommandations formulées, l'auteur de la question orale, Adèle Bazizane Maéché, insiste sur la réhabilitation urgente des infrastructures hydroélectriques afin d'améliorer l'accès de la population à l'électricité.
Aligné dans les projets de loi de finances 2027, le projet de construction des nouvelles centrales hydroélectriques et solaires sur les différentes unités de production à travers l'ensemble du territoire national afin de réduire les déficits énergétiques actuels.
Pour le président de l'Assemblée nationale, le principal défi reste de transformer l'immense potentiel énergétique du pays en véritable moteur de développement. Aimé Bogi.
Il est vrai que l'électricité reste encore un luxe plutôt qu'un service public accessible à tous. Cette réalité nous impose d'aller au-delà des annonces et d'accélérer les réformes structurelles, l'entretien des réseaux, les investissements dans les infrastructures et l'extension du service à la majorité de nos populations. Notre peuple attend des résultats concrets, mesurables et perceptibles dans son vécu quotidien.
Enfin, il a été demandé au ministre Molendo Sakombi de présenter dans un délai de 5 mois une évaluation des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du programme du gouvernement.
Pendant ce temps, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics ordonne l'accélération du projet Tramways Kinshasa. Lors d'une séance de travail organisée ce vendredi dans la capitale, il a annoncé son ambition de conclure, avant la fin du mois de mai, un protocole d'entente entre le gouvernement congolais, Prime Tramways Kinshasa et Power China, consortium chargé de l'exécution du projet. Cette initiative vise à offrir aux millions de Kinois un mode de transport moderne, rapide, sûr et écologique. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le premier grand signal de cette révolution interviendra avec la signature officielle du contrat ouvrant la voie à la mise en service du tout premier tramway sur la ligne Gombe aéroport de Djili en 2027. Pour contourner les embouteillages et inondations, cette ligne bénéficiera d'infrastructures d'envergure, notamment un tunnel et un viaduc. Le réseau des tramways Kinshasa utilisera une énergie propre totalement indépendante de la SNEL, garantissant ainsi une circulation fluide et continue sans impacter la desserte domestique de la population. Le plan global de ce projet prévoit le déploiement de 7 lignes intercommunales interconnectées, dessinant un réseau cohérent et sécurisé à travers la capitale. Il s'agit de la ligne Gombe aéroport d'Njili, Kitambo Université de Kinshasa, Matete Kitambo, aéroport d'Njili Kitambo, Kitambo Cité Verte, Kitambo Selembaou et Cité Verte Ndzoku.
Restons à Kinshasa pour parler de ces deux ouvrages présentés jeudi 21 mai au fleuve Congo Hôtel. Le premier, signé par Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, s'intitule « La nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle ». Dans ce livre, l'auteur analyse les textes constitutionnels congolais et africains relatifs à la protection de l'intégrité territoriale et insiste sur l'impossibilité de conclure des traités ou accords qui porteraient atteinte à cette intégrité. Reportage de Benjamin Mudumbi.
Ce concept des verrous protecteurs de l'intégrité territoriale, Nicole Ntumba, professeur également préfacière de l'ouvrage, en explique le bien fondé.
Je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce que ce monsieur entend par verrou protecteur tout court et par verrou protecteur de l'intégrité territoriale? J'ai compris qu'il s'agit d'un mécanisme constitutionnel conçu pour rendre l'intégrité territoriale non négociable, imperméable aux manipulations politiques opportunistes et aux pressions internes ou externes.
L'auteur de l'ouvrage, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, explique l'essentiel de sa démarche relative au second livre.
Arrêt controversé de la Cour constitutionnelle, le premier arrêt que j'ai analysé, c'est l'arrêt Mbata. Le professeur André Mbata saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code pénal qui maintiennent la peine de mort. La Cour constitutionnelle saisit, rend un arrêt par lequel elle décrète l'irrecevabilité de la requête du professeur Mbata.
Ce second livre, quant à lui, analyse les forces, les faiblesses, ainsi que la problématique complexe de l'exécution de la peine de travaux forcés.
La situation de l'épidémie d'Ebola en RDC est jugée extrêmement préoccupante par les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé. Dans une publication datée du 22 mai sur les réseaux sociaux X, le docteur Tedros Adhanom fait état d'une hausse des cas et d'une riposte compliquée par l'insécurité dans certaines zones du pays. Il annonce également le déploiement des nouvelles équipes de l'OMS en Ituri, épicentre de l'épidémie. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Le directeur général de l'OMS indique qu'à ce jour, 90 cas confirmés d'Ebola et 7 décès ont été enregistrés en RDC. Il estime toutefois que l'ampleur réelle de l'épidémie est plus importante, avec près de 750 cas suspects et 177 décès présumés. En Ouganda voisin, des cas confirmés et un décès ont été signalés. Aucun nouveau cas ni décès n'a été enregistré, précise-t-il. Il ajoute par ailleurs qu'un ressortissant américain infecté en RDC a été transféré en Allemagne pour y recevoir des soins. Un autre cas suspect, également de nationalité américaine et identifié comme contact à haut risque, a été évacué vers la République tchèque. Le docteur Tedros Adhanom souligne que ces chiffres évoluent grâce à l'amélioration de la surveillance et des tests. Mais il insiste sur le fait que la violence et l'insécurité continuent de compliquer la riposte, notamment dans l'est de la RDC. Face à cette situation, il annonce que des équipes supplémentaires de l'OMS ont été déployés à Ituri, épicentre de l'épidémie en RDC, en fait de renforcer l'appui aux communautés touchées. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
En Ituri, le contingent bangladais de la MONUSCO a remis ce vendredi à la 32e région militaire de FARDC un champ de tir destiné aux exercices militaires à Diango, situé à une dizaine de kilomètres de Bunia. Aménagé sur 200 mètres, cet espace a été construit et équipé grâce au financement du gouvernement bangladais. Pour le commandant de la 32e région militaire qui a réceptionné l'ouvrage, cette infrastructure permettra de renforcer les capacités des militaires afin qu'ils puissent mieux assurer leur mission régalienne de protection de la population dans cette province en proie à l'insécurité. Reportage signé Isaac Raymond Yopi.
La cérémonie de remise de ces champs de tir a été marquée par des exercices de tir à l'aide d'armes AK-47 et de revolvers visant des cibles installées dans cet espace aménagé au pied d'une colline sur une distance de 100 mètres. L'objectif de cette réalisation est de permettre aux militaires FARDC de s'exercer régulièrement afin d'améliorer leur précision au combat et de renforcer leur capacité opérationnelle sur les lignes de front. Le commandant de la 32e région militaire qui a réceptionné cette infrastructure explique l'importance de cette dotation, le général David Mushima.
Ces champs de tir nous servira toujours aux entraînements, à guérir nos spécialistes.
Présent en Ituri depuis 23 ans, le contingent bangladais de la MONUSCO, certains éléments ont perdu la vie dans les opérations de maintien de la paix, apporté un appui important au FARDC. Le commandant de la 32e région militaire revient sur cette coopération.
Nous travaillons avec eux depuis 2003. Dans les opérations, ils nous ont appuyés. Dans les patrouilles, ils nous appuient. Les formations des troupes.
Il s'agit du deuxième champ de tir opérationnel des FARDC à Bunia, a précisé cette autorité militaire, qui a également appelé les soldats à demeurer loyaux envers la nation.
Notre serment
n'est jamais trahi le Congo.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
5 morts et un rescapé grièvement blessé, c'est le bilan encore provisoire d'un carnage survenu jeudi 21 mai dans le territoire de Kabare, en groupement de Bougor. Selon plusieurs sources locales, les victimes des civils, boucherons et agriculteurs des villages Kamakombe et Kachouago ont été prises pour cible par un groupe armé dans une plantation. Les assaillants ont rassemblé les victimes avant de les exécuter à tour de rôle, comme en témoigne un responsable de la société civile du groupement de Bougor.
Le massacre de Mbayo, c'est depuis hier les avant-midi, et ça s'est passé dans les circonstances où les éléments M23 sont allés attaquer les Ouazalendu au niveau de la plantation de Mbayo. Dans cette plantation, lorsqu'ils ont été mis en déroute, selon les informations que nous avons, ils ont été mis en déroute par les Ouazalendu, et de leur retour, c'est là qu'ils se sont empris à des paisibles citoyens qui faisaient leurs activités de braise, ce sont eux qui ont été tués. Malheureusement, le nombre est de 5 personnes tuées.
Direction la province du Maniema, où les cas d'insécurité se multiplient dans la ville de Kindu. Le dernier en date se produit jeudi soir 21 mai au bloc Omata. Des hommes armés ont tenté de braquer un shop de transfert de monnaie. Alertés par les cris de la population, les assaillants ont pris la fuite, mais en tirant des balles réelles. Leur attaque a coûté la vie à une jeune fille et fait 4 blessés graves. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité s'est rendu sur les lieux pour rassurer la population. On écoute Lawamo Selemani Taylor au micro de Florence Kizalunga.
Les bandits à main armée, non autrement identifiés, ont fait incursion au bloc Omata vers 19h45. À cette occasion, ils ont tenté de braquer dans un shop et lorsque la population avait crié, ces bandits ont tiré en désordre, occasionnant une perte en vie humaine d'une fille de plus ou moins 17 ans et 4 blessés graves. Aussitôt informés, nous nous sommes transportés avec le service de sécurité pour nous enquérir de la situation et activer surtout la prise en charge de ces blessés. C'est pourquoi nous présentons d'abord les condoléances à la famille de l'illustre disparu et à la famille de toutes les autres victimes. Alors, à cette occasion, nous demandons à la population de garder son calme. Les services de sécurité sont en train de rechercher tout ce qui crée les inquiétudes à la population durant ces derniers jours. Pas seulement dans la ville de Kindu, et même dans les territoires où nous apprenons les cas isolés par-ci, par-là. Et surtout, activer le système Nimbakumi qui va nous permettre d'identifier tous ces malfaiteurs-là qui sont en train de circuler parmi nous.
Actualité internationale.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de son premier ministre Ousmane Sonko dans la soirée du 22 mai 2026. L'annonce a été faite à la chaîne de télévision RTS peu avant 22h temps universel.
L'invité.
Notre invité est Bilembo Malonga Blaise. Il est le chargé de réduction des risques et des catastrophes au sein de l'organisation Union pour la promotion et la défense des droits humains et environnement. Face à la situation récurrente des inondations fluviales dans la ville de Kindu, cette organisation vient d'organiser une rencontre avec différentes parties prenantes afin d'analyser ce problème et élaborer une note de plaidoyer sur les inondations fluviales à Kindu. Bilembo Malonga Blaise s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Bilembo Malonga Blaise, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Que retenir de cette analyse que vous venez de faire par rapport à cette problématique des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Merci. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse nous a fait découvrir d'abord la situation de Kindu, l'historique nous a montré qu'il y a eu l'inondation en 1960 à partir de 97, que nous avons commencé à voir les manifestations des inondations qui d'abord fluviales. Cela a commencé à s'aggraver à partir de 2004-2005, mais à partir de 2016-2017-2020 que ça a commencé à être année par année. Donc ce qu'il faut retenir, que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à la fois la cause de toutes ces inondations-là. Nous avons découvert par exemple qu'il y a d'abord la mauvaise urbanisation, l'urbanisation qui n'est pas planifiée et que cela aggrave la situation. Il y a aussi la mauvaise gestion des ordures qui est aussi l'une des causes. Il y a des ordures qui sont jetées, il n'y a pas d'entretien, il y a toute une série de problèmes que nous avons retenus sur ça.
Votre souci est d'apporter une réponse à cette crise. À l'issue de votre atelier, vous avez pu élaborer une note de plaidoyer que vous avez adressée à tous les niveaux. Peut-on savoir ce qui est contenu dans cette note de plaidoyer?
Oui, nous avons le souci de vraiment de répondre à tous ces problèmes parce que vous savez, les inondations, il y a des impacts sociaux qui sont accompagnés. Il y a des pertes des maisons, il y a des maladies et que ça vient, comme la population dit, ça devient de l'année à l'année. Donc toutes les années maintenant, ça devient un problème récurrent. Maintenant, la note a été rédigée et ce qui est contenu dans la note, d'abord, nous avons montré les contextes. La participation a montré les contextes de Kindu, comment la ville elle est traversée par les fleuves Congo et comment elle est aujourd'hui exposée par les inondations. Il y a aussi les demandes. D'abord, il y a eu des demandes qui sont en urgence, c'est d'abord trouver une solution à la population qui est dans les zones inondables. Que l'État ou le gouvernement puisse trouver une solution durable parce qu'il y a des ceux-là qui disent que non, nous voudrions même quitter ici, mais on n'a pas où aller. Donc c'était une demande. Et cela aussi est accompagné par, dans les demandes, la gestion durable des déchets, des ordures. Il y a les inondations pluviales qui aussi est un problème parce que parfois quand il pleut, les caniveaux sont bouchés, les rivières sont remplies par des déchets. Si les déchets ne sont pas bien gérés, ça cause pose aussi des problèmes. Et dans cette note, il y a des recommandations. On a recommandé à des différents niveaux, au gouvernement, on a recommandé de trouver, par exemple, un nouvel arrêté, les nouveaux lotissements dans toutes les trois communes, parce que c'est toutes les trois communes qui sont touchées. Il faut qu'il y ait des lotissements pour cette communauté-là, qui soient relogés là-bas, parce qu'ils sont dans des zones à risque. Il faudrait aussi, parce qu'il y a eu des cacophonies, il y a des confusions entre les services cadastraux en général, donc cadastre, urbanisme et titres immobiliers, avec la municipalité, donc la ville. Et par moments, ils sont dans des confusions. On a recommandé qu'il y ait quand même, qu'on puisse séparer les mandats des chefs de quartier, les mandats des cadastres, on ne sait pas qui, parce qu'on donne illégalement les terres. Celui qui n'en a pas la compétence, il peut donner la terre, ne sachant même pas les dangers que cette personne peut recourir là demain.
Si vous avouez qu'il y a certains qui sont fatigués par cette situation, mais par contre, il y a d'autres qui persistent toujours, même s'il y a inondation, ils sont assistés et ils retombent encore dans cette même situation. Alors, il y a dans votre projet, est-ce que vous avez aussi le temps de sensibiliser la communauté, de montrer les dangers qui présentent ou les dangers qui sont en train de vivre tous les jours?
Oui, oui, en ce moment ici, il y a des équipes qui sont sur terrain. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté et beaucoup, même parfois, bon, je me dis, il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, des maisons, alors que l'assistance ne vient pas pour construire la maison. Donc, c'est une question de sensibiliser. On a compris aussi, il y a parfois l'ignorance de la part de la communauté, de la part des autorités parfois. Donc, nous sensibilisons. Beaucoup sont déjà d'accord. Ils disent que non, nous attendons seulement les décisions du gouvernement. On sera d'accord d'aller dans les lieux sécurisés.
Que peut attendre la population à l'issue de votre projet ici par rapport à cette question des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Les communautés doivent attendre que leurs doléances seront présentées à toutes les couches qui sont intéressées et nous espérons qu'une réponse sera venue favorablement à toutes ces doléances-là.
Bilembo Malonga Blaise, merci.
Merci beaucoup.
C'était donc notre invité Bilembo Malonga Blaise qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Voilà qui met fin à ce journal préparé pour vous par Jude Mystère Bilandan Kumar et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux nouvelles sportives avec Jean Gandou Kabongo qui vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour Jean.